Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et on retrouve nos invités, nos experts ce soir pour parler de ce débrief de la tech. On va encore beaucoup parler d'intelligence artificielle. Avec nous, Perle Bagot, bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
Perle, merci d'être avec nous. Rentrée, alors, non, c'est quand même il y a une dizaine de jours, le Southwest.
Ça a commencé il y a une dizaine de jours, ouais. Et c'est un festival qui dure assez longtemps. Donc, il y a de quoi faire de la veille et avoir quelques tendances intéressantes.
Oui, et on regardera ça avec un peu de cinéma. Il y a toujours un peu...
Cinéma, musique. Parle. Historiquement, c'est un festival autour de la créativité. Depuis quelques années, ça s'est tourné vers le digital et depuis deux ans vers l'IA. Mais effectivement, à l'origine, c'est plutôt sur la créativité.
Eh bien, on dirait un mot de tout ça à tes côtés. Augustin Seyer, bonsoir Augustin.
Bonsoir Fred.
Co-fondateur, directeur général d'OVNI, donc fonds d'investissement, évidemment, avec de l'IA, j'imagine, un peu dans le...
Un peu.
Dans le portefeuille, un petit peu. Et puis avec nous, Hugo Borenstein, bonsoir. Hugo.
Salut.
Donc, cofondateur et président d'OMI, on est là dans les logiciels de modélisation 3D. Et ça marche plutôt bien hein, en ce moment, parce qu'on cherche tout ça.
Tout le monde veut de la 3D.
Voilà, tout le monde veut de la 3D, tout le monde veut de l'IA, tout le monde veut de la 3D. Alors ce soir, on va démarrer tout de suite avec... Alors, vous préférez quoi, Apple ou Nvidia? Allez, choisis.
Apple,
allez, on démarre avec Apple.
Le sujet qui fâche.
Apple, alors on le sait, était... assez en retard, on les entendait beaucoup moins sur l'IA générative. Donc on se demandait, on sait qu'en interne c'était un peu compliqué aussi, tout le monde se battait un peu. Et puis là, là il y a un petit coup d'accélérateur qui est donné avec un lien avec Google. Alors c'est pas la première alliance d'Apple avec Google, puisque le moteur de recherche de Google se retrouve sur les appareils Apple, et d'ailleurs en version quelques milliards hein, au passage, ce qui fait du bien à Apple. Et donc là on se dit, qu'est-ce qui se passe chez Apple, Augustin? Ce retard.
Augustin là, moi.
Pardon.
Je t'en prie.
Hugo, pardon.
Écoute, c'est hyper intéressant ce que tu l'as dit. C'est une alliance qui dure depuis pas mal de temps. Le navigateur par défaut, Chrome est beaucoup poussé. Les services Google sont énormément poussés. C'est des deals en dizaines de milliards. Donc c'est, comme tu le disais, des très 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 gros deals. La question, c'est est-ce qu'ils veulent utiliser Gemini pour développer des services sur Apple, sur l'écosystème Apple, ou à l'inverse, est-ce qu'ils veulent utiliser la data Apple pour venir nourrir Gemini? Donc c'est une relation un peu saine, et puis ça fait interdépendante, et puis ça fait surtout écho au move qu'a fait Microsoft avec OpenAI. Ouais. On sait que Apple se considère être un peu en retard, que Tim Cook a été très contre.
Il se dit que Apple est aussi allé discuter un peu avec OpenAI. Hein.
Ouais, ils ont essayé, mais enfin après tu as en face Microsoft, donc je sais pas à quel point il y a une marge de manœuvre, ouais. Un vrai deal. Ça fait surtout rattrapage par rapport à Microsoft.
Ce qui est surprenant, c'est que ils ont parlé il y a trois mois, Tim Cook disait on va vous annoncer plein d'innovations sur l'AI au sein d'Apple, à la prochaine conférence Apple, et aujourd'hui on apprend que c'est avec Google. Ouais. Autant quand Apple a choisi Google Maps pour le lancement de son iPhone en 2007 ou 2008, ça fait du sens, c'est un produit qu'offrait pas Apple. Enfin, je crois pas à l'époque.
Oui, oui.
Autant là, je suis perplexe. Je me demande, ce serait intéressant de voir en bourse, en fait, est-ce que les actionnaires, c'est bien. Pourquoi alors, Apple.
L'action a repris. Alors, l'action qui a perdu 5-6% là, ces derniers mois d'Apple, là, elle a repris 2% à l'annonce de ce partenariat. Après, la question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe chez Apple autour de l'IA générative, Perle?
Il y a plusieurs choses, en tout cas, avec l'IA générative qu'on observe. Il y a à la fois, effectivement, l'investissement de la part des grands acteurs de la tech pour avoir leur propre IA et leur propre LLM et, effectivement, développer leur propre solution. Et en même temps, il y a aussi, donc ça c'est la partie, on va dire, la plus visible de l'iceberg, et il y a quand même beaucoup, on va dire, soit de co-innovation, ou en tout cas d'investissement, de concurrents dans les mêmes entreprises, dans les mêmes startups, notamment des pure players de l'IA générative. Et donc on voit finalement qu'aujourd'hui, à la course où tout doit aller extrêmement vite, où toutes ces entreprises doivent être très performantes, très innovantes, et on voit l'impact que ça a quand elles ne le sont pas ou quand elles le sont mal, notamment sur leur propre valorisation, qui a un enjeu finalement à ne pas mettre ses œufs dans le même panier et à finalement diversifier sa capacité à aller certes produire sa propre innovation, mais en même temps aussi à soit co-construire des partenariats, soit aller investir dans d'autres startups.
Ce que tu dis est juste, en plus, c'est ce qu'on voit hein, chez Google Cloud, chez AWS, ils signent, Google Cloud est signé aussi avec Mistral, ouais, à sa propre IA, avec ses propres processeurs. Enfin voilà, il faut être assez agnostique, quoi.
il faut aller manger partout où on peut. Mm-hmm. Et effectivement, bah, c'est finalement pas très étonnant, d'autant plus qu'ils ont un partenariat, comme vous l'avez dit tout à l'heure, assez historique. Donc finalement, la relation s'inscrit un peu dans la continuité. Ça aurait été plus surprenant, effectivement, avec OpenAI ou avec un Meta, par exemple. Alors que là, voilà, c'est dans la continuité d'une collaboration. Après, est-ce qu'ils en arrivent à là parce qu'ils n'ont pas été assez vite dans le développement de ce qu'ils voulaient, de ce qui avait été annoncé, mais enfin, avec beaucoup de pincettes. Ça, c'est un autre sujet. Mais bon, voilà, en même temps, c'est pas non plus très étonnant.
Après, ce qu'il faudrait regarder, je pense, c'est quand on connaît bien la Silicon Valley, c'est comme le foot. Regarder un peu les noms des joueurs, parce que voilà, on comprendra pas. Peut-être si le PSG tourne moins bien l'année dernière, ceux qui connaissent rien au foot comprendront pas, et ceux qui connaissent diront ah bah oui, mais Mbappé est parti. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi chez Apple, c'est qu'il y a eu beaucoup de départs, voilà, quand on connaît un peu cet univers de l'IA, on a 80 super puissants cerveaux super puissants dans le monde. On a Arthur Mensch chez nous, mais on en a d'autres, et puis voilà, donc il y a quand même quelques cerveaux, et s'ils sont pas chez Apple, ils sont chez les autres, et donc ça fait cette différence, Hugo. Il y a peut-être un peu de ça aussi.
Non, t'as raison. Il y a une vraie bataille pour les talents. C'est des salaires de footballeurs. Hein. C'est l'équivalent dans la recherche. T'as raison. C'est une bonne métaphore. Mais je pense que le vrai débat, c'est la data. C'est quelle data tu mets dans ton modèle. La bataille derrière les modèles d'intelligence artificielle générative, c'est la data que tu lui donnes à cruncher, sur laquelle elle est entraînée. Là, tu vois un couple puissant, puisque tu vas avoir la data de la navigation, du search, et puis tu vas avoir la data du mobile si tu couples Apple à Google. Donc moi, je trouve que c'est un move hyper.
Oui, ils ont dû battre le pour et le contre, se sont dit finalement là.
Ouais, et quelle base de données je vais pouvoir exploiter. Je vois mal quand même Apple sous-traiter l'innovation produit à Gemini pour l'intelligence artificielle. Ouais. C'est quand même, il y a du machine learning dans tous les produits d'Apple, t'en as dans Apple Pay, t'en as dans Siri. Alors maintenant on se moque de Siri parce que il a un peu pris un coup de vieux avec la version vocale de ChatGPT, mais enfin c'est quand même une innovation qui a été en pointe. Moi je pense que c'est vraiment quelle data ils veulent, le deal data qu'ils vont se partager et qui vont injecter dans Jimmy.
Et puis je pense qu'il y a un côté aussi par rapport aux Chinois, dont Perle, on sait qu'aujourd'hui il y a une grosse compétition face aux Xiaomi, Huawei qui veulent tous intégrer de l'IA générative, ou des Oppo qui veulent tous intégrer de l'IA générative. On sait que le marché chinois pour Apple est très important. Il faut qu'ils aient de l'IA générative. Là, il y a un moment, c'est bien beau d'avoir un beau téléphone qui fait des belles photos, mais les Chinois, s'ils voient que les autres sont plus performants en IA, ils vont vouloir aussi de l'IA générative.
Oui. Alors bien sûr, on peut aussi regarder sur cet angle-là. Maintenant, le sujet, c'est d'être compétitif et performant sur le marché de manière générale, pas que par rapport aux Chinois qui, effectivement, investissent aussi assez massivement sur ces technologies.
J'allais te demander, c'est quoi le cas d'usage dans un téléphone, l'IA ? Enfin, évidemment, en background, mais à part Siri, enfin, pour le consommateur, à part Siri
Si demain t'en mets en fondation dans toutes les apps dans l'App Store, c'est comme l'infrastructure de paiement, tu vois.
Bah oui, non, mais t'as pas besoin d'Apple pour.
Mais moi je vois pas un produit grande consommation que tu utilises en direct. Je vois vraiment, comme t'as dit, en back de toutes leurs apps en sous-couche. ChatGPT a quand même pris la place pour l'instant, tu vois, et je suis pas sûr qu'il y ait un usage Apple. Alors il y a un autre sujet quand même. Je sais pas si t'as ouvert récemment tes photos sur ton téléphone. C'est infernal de retrouver une photo. Ouais. Et là il y a une bonne grosse couche de traitement de l'image à mettre. Nous on regarde beaucoup ces technos-là chez Omi, évidemment, sur la partie 3D, mais chercher une photo et être capable de la retrouver en deux
secondes, si on l'a pas tagué, de même les messages.
Dans les messages
Je vois les gens, toute la journée tu regardes les gens, ils font des screenshots encore de leur photo. C'est un truc de fou, tu captures des images de ton écran qu'après tu ranges pas, tu structures pas, donc t'as quand même des endroits où tu peux amener de l'innovation et de la simplicité. Après, est-ce qu'ils veulent faire un produit grand public en direct d'IA? Je suis pas sûr, et d'ailleurs ça serait pas licencié sous le nom de Gemini. La marque de fabrique d'Apple, c'est quand même la perfection, c'est la sophistication suprême. Je les vois mal sous-traiter la partie.
Ils vendent encore leur haut-parleur intelligent là aux États-Unis? Ils avaient vendu un
sur le Home.
Ouais, leur Home. Google Home, leur équivalent du Google Home, parce que peut-être que là il y a un use case consommateur.
Après c'est vrai qu'on a des Bill Gates qui disent toujours un jour on n'aura plus que ces enceintes chez nous, puis on leur parlera, puis ils nous guideront. Est-ce que c'est pas un moyen aussi, il y a pas un petit coup double aussi pour gérer, enfin un coup de réciproque, que pour Gemini AI ça apporte un peu de légitimité, parce que Gemini AI est un peu critiqué.
C'est vrai qu'on a vu l'info, on s'est dit bon, vu les résultats initiaux de Gemini, même la version texte que moi j'essaye quelques fois, enfin ça va pas du tout au niveau de ChatGPT en tout cas, la version 4. C'est un bon point, ça revient un peu sur ton point. Est-ce que ça va aider? C'est peut-être win-win, c'est peut-être.
Oui, Perle.
Oui, oui, effectivement, c'est effectivement une approche assez win-win en termes de revalorisation de Gemini et en même temps, voilà, de valeur supplémentaire apportée dans l'écosystème Apple. Donc c'est assez intéressant comme association.
Et on pourrait avoir, on parlera d'Apple bien tout à l'heure d'ailleurs, mais dans un domaine complètement différent, sera en fin d'émission. Ils équipent les orchestres d'iPad Pro avec reconnaissance de, donc les musiciens jouent et comme il y a une reconnaissance de la musique, ben ils n'ont plus à tourner les pages, c'est l'iPad Pro, enfin on verra tout ça avec une startup qui s'appelle Music.
Mais c'est la première fois que tu as un move aussi défensif d'Apple.
Oui.
C'est-à-dire qu'Apple, c'est l'innovation, c'est être à la pointe, tu vois.
Et 15 jours, ils ont arrêté la voiture hein, déjà.
Ouais, bah c'était un four. Et puis ouais. Je crois que ça coûtait quand même très cher, mais ils sont réactifs par rapport à l'alliance Microsoft OpenAI. Il leur faut leur alliance, tu vois, avec un autre acteur. Alors là, en l'occurrence, pas une start-up puisqu'on parle de Google, mais il faut qu'ils répondent. Et c'est pas leur propre innovation qui vient répondre. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que t'as rarement Apple comme ça en position défensive face à un move industriel d'un autre player, ici Microsoft.
Et si on parlait de notre petit qui commence à grossir, même si ils sont encore qu'une 30 ou 40 chez Mistral, on pourrait voir un Mistral aussi arriver. Ce serait un joli coup aussi s'ils signaient avec. Alors, ils ont eu Microsoft, ils ont Salesforce, ils ont Nvidia, enfin, dans les partenaires, mais. Est-ce que ça pourrait être l'occasion de...
Franchement, je connais pas suffisamment ce milieu-là. J'imagine que le cahier des charges pour un Apple dans ce type de service, malheureusement, un Mistral n'est pas encore la taille et les capitaux suffisants. Mais c'est rien de négatif contre Mistral. Hein.
Moi, je peux que l'espérer. On en parle régulièrement quand tu m'invites. Je veux dire, on n'a pas d'acteur souverain, on n'a personne sur le territoire européen. Il faut qu'on arrive à nouer ces alliances. Alors, Mistral, on considère que c'est bien financé à l'échelle française ou européenne. C'est vrai que quand tu compares au taux enfin, l'investissement qui est fait dans les champions américains, c'est dérisoire, c'est une goutte d'eau. Donc, est-ce qu'ils ont les moyens de se défendre? Tu dis qu'ils sont que 30. L'avantage qu'a Mistral, c'est que, tu l'as aussi dit tout à l'heure en intro, il y a un pool de talents en France, hyper dense, ou de talents français qui veulent revenir en France, qui est très, très important. Donc ça peut se jouer sur la construction de l'équipe. Le risque historique que tu as, c'est que quand tu construis une belle équipe ou un beau produit, bah, tu as Apple qui arrive et puis qui met un billet sur la table pour te faire venir.
On en reparlera peut-être lors d'un autre débat, mais moi c'est ce qui me fait peur sur Mistral. C'est qu'un jour, il y en a un qui arrive avec un, même si c'est valorisé 2 milliards. Alors après, c'est des jeunes, ils ont encore le temps de bâtir.
Ils réinvestiront dans l'écosystème français.
Oui, bah, ça
c'est la petite boule.
Ouais, mais on aura encore fait l'innovation externe des Américains. Et moi, je trouve que c'est ça le vrai sujet, et je suis pas pour la réponse tu mets de la régulation, t'empêches de vendre, etc.
S'il y a beaucoup de boîtes françaises qui sont vendues 2 milliards, ça, franchement, je crois qu'il n'y en a aucune.
Oui, mais là, tu es sur un sujet de souveraineté.
Oui, d'accord. Certes.
Tu me dis, demain, on vend Omi 2 milliards, je te dis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'enjeu de souveraineté sur la 3D. On signera, on sera là, t'inquiète pas.
T'auras d'autres petits bébés derrière.
Et on fera peut-être d'autres petits bébés derrière. Mais là, tu es quand même sur un sujet souverain, c'est-à-dire c'est la recherche en intelligence artificielle. C'est une team qui est très spécifique. Déjà, il faut la financer. Moi, je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord, toi qui évolues dans ce métier-là, mais je trouve que ce n'est pas si bien financé. C'est bien, mais ça pourrait être plus. Tout le monde a dit que c'était très cher, etc. Je pense qu'on peut faire mieux. Et puis, il faut les défendre, faut leur donner les moyens d'accéder à la data. L'Europe, pour une fois, bonne nouvelle, investit dans un supercomputer qui va alors avoir une capacité de...
Là, ils sont en train de leur modèle aux États-Unis aujourd'hui.
Bah, c'est un autre problème. C'est-à-dire que toute la data, elle est partie aux US et tout est calculé aux États-Unis.
Ouais, mais donc, ça crée des métiers ici. On peut allier les capitaux américains et créer des jobs en France.
On parle de 30 jobs. On n'a pas créé de jobs.
Ah, mais on a début.
Oui. Ouais. Ouais, moi, je crois pas à ça. Ouais, puis... Moi, je crois qu'il faut qu'on défende notre modèle, ce qu'ils vont produire, que ça reste propriétaire et qu'à la fin, les talents aient envie de la pousser et de créer une alternative. Mais le problème, c'est ce que tu as dit. Le jour où tu as Apple qui arrive, qui fait ses 2 milliards. Moi, je les connais, c'est des anciens collègues de Meta, les mecs de Mistral. Bah, 2 milliards, t'as 35 piges, tu te poses la question. Hein.
Bon, eh ben, on suivra ça en tout cas. On va continuer à parler d'IA. On reparlera dans un instant de la fête à Austin hein, dans le Texas, le Southwest Festival où Pearl était il y a quelques jours. On poursuit juste. Alors ça va se dérouler dans 3/4 d'heure. C'est la conférence annuelle de Nvidia. Alors fortement attendue. Vous imaginez bien, Jesse Nguyen va prendre la parole. Alors voilà, les parts de marché sont incroyables. 80% de marché dans les centres de données, et puis on rappelle l'histoire, au départ c'était pour du jeu vidéo, et puis toc toc toc, grâce au calcul matriciel vectoriel, on s'est dit mais c'est super pour faire de l'IA. On voit quelques petits signaux faibles quand même qui disent oui mais attention, il y a peut-être des puces plus spécifiques qu'on peut développer à côté, mais Nvidia doit y réfléchir aussi, puis avec l'argent qu'ils ont, ils doivent aussi, enfin ils doivent pas rester inactifs de ce côté-là, mais les Intel, AMD sont en train de se réveiller, puis les Google, Amazon aussi et les Microsoft avec leurs propres processeurs. Bon, ils devraient annoncer peut-être la prochaine génération de ces puces, les B100. Là, on était au A100, ça allait être les B100. Et puis toute une partie logicielle. Qu'est-ce qu'on peut attendre là de ce Nvidia, Perle? T'as regardé un petit peu?
J'ai regardé un petit peu, mais moi ce que je trouve intéressant à regarder sur Nvidia, c'est quand même ce marché en fait et cet enjeu qui est géopolitique autour des processeurs et de ces cartes. Aujourd'hui, la production de ces cartes, elles sont à 80% produites par une usine qui est à Taïwan. Mm-hmm. Donc dans un contexte politique qui est quand même très compliqué tendu. Avec la Chine. Et ça rejoint le point qui est quand tu dis qu'effectivement tous les grands acteurs de la tech maintenant investissent assez massivement d'ailleurs pour développer leurs propres cartes, pour retrouver cette autonomie. Finalement, on voit que ce marché est en train d'exploser avec des enjeux quand même très forts politiques et économiques, mm-hmm. où finalement chacun a intérêt à développer sa propre infrastructure et ses propres cartes. Donc le challenge, il est à plusieurs niveaux pour Nvidia. Certes, aujourd'hui, c'est les leaders, ils ont fait une croissance extraordinaire et ils sont vraiment absolument incontournables, ils sont très performants.
Ah ben, la capitalisation a explosé.
Mais on voit que les investissements, en tout cas, on voit que les entreprises de la tech investissent de plus en plus. Alors ça prendra du temps, parce que c'est des infrastructures qui sont complexes, ça demande beaucoup d'argent, c'est aussi un savoir-faire très particulier. Mais il y a un enjeu, en tout cas, et notamment aux États-Unis, il y a un plan qui a été mis en place pour investir assez massivement, plusieurs centaines de milliards de dollars pour relocaliser cette production. Alors, Nvidia prendra aussi effectivement sa part et relocalisera, mais c'est intéressant de voir comment en fait le marché va évoluer, parce que derrière, il y a des enjeux politiques très très forts qui dépassent, qui sont représentés.
Oui, et puis derrière, il y a toute la chaîne de valeur.
Exactement, mais qui
les métaux rares qu'il faut aller extraire. On est quand même dans une démarche éco-responsable quelque part. Enfin, tout le monde a ça quand même en tâche de fond, même si je vous vois sourire, mais ça reste quand même une tâche de fond importante, hein, qu'il faut que chacun ait en tête, donc il faut faire attention à ça. Augustin,
la dernière fois que j'étais sur ce plateau, c'était avec Hugo, il avait poussé un fameux cri. Enfin,
il en pousse souvent, mais peut-être ce soir, on va lui passer la parole dans un instant.
Contre l'excès de réglementation européenne, et en l'occurrence, là, et je lisais un petit papier ce week-end et qui parlait à quel point, en effet, les Chinois et les Américains, c'est intéressant, en fait, il y a eu beaucoup de licenciements ces derniers mois, et en fait, les licenciements, tout l'argent qui a été économisé de ces licenciements, pour une grosse partie, il a été réinvesti dans tout ce qui est intelligence artificielle. Oui. Et notamment financement de cartes à puces, délocalisation vers les pays occidentaux de la construction de semi-conducteurs. Et en fait, il disait qu'en Europe, il y a un excès de réglementation aussi sur le social. Ça, c'est notre modèle, qui fait qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué de s'adapter au marché existant, qui demande aux scale-up françaises, aux scale-up européennes, aux grosses multinationales françaises et européennes, d'investir dans de l'IA. Mmh. Et je peux te renvoyer un peu la balle comme ça. Je pense que tu as raison. L'Europe, au lieu de faire sa prochaine réglementation sur comment on va réglementer les semi-conducteurs en Europe.
Alors, elle a mis en place aussi un plan d'investissement, sauf qu'il est 3 ou 4 fois moins important que ce que, par exemple, les États-Unis font. Donc, c'est toujours ça un peu le problème. C'est-à-dire qu'ils le font.
Mais les États-Unis, t'as le privé derrière.
Mais
en France, t'as pas le privé, en fait.
Il y a le privé. Alors, aux États-Unis, il y a les États aussi qui se battent un peu pour avoir les localisations. Ouais. Bon, nous, c'est les États aussi, mais c'est pas des États unis.
Voilà. Nous, on préserve les emplois. Mais c'est un parallèle, on présente pas, mais c'est un peu plus compliqué d'investir. On a moins d'argent pour investir dans de l'IA. Et en effet, l'État pallie, mais il pourra jamais autant que le privé. Enfin, ça, c'est ma conviction.
Hugo, on sent qu'il va dégainer.
Non, ça, c'est intéressant. C'est sûr que les moyens qui ont été mis. Alors, les Chinois sont en train de se mettre à niveau. Perle, tu l'as dit, mais peut-être juste pour nos auditeurs, nos auditrices, que tout le monde comprenne bien. C'est-à-dire que, en matière d'intelligence artificielle générative, celui qui contrôle la valeur, c'est celui ou celle qui contrôle la capacité de calcul. Mm-hmm. Donc, la capacité de calcul qui permet de faire tourner ses modèles, générer une image, si tu parles d'une IA qui génère une image, ou générer un modèle qui va converser avec toi, etc. Donc, il y a un vrai sujet sur qui contrôle les GPU et qui produit les GPU, puisque ce sont ces cartes graphiques qui permettent la capacité de calcul. Nous, chez OMI, on en a 1000. Chez Amazon, je peux te dire, c'est une facture. Si je disais le chiffre, tout le monde s'évanouirait, je pense. C'est vraiment très très cher. Mais derrière, t'as le mec qui les vend à Amazon. Et donc, ce qu'a dit Perle, c'est que est-ce qu'on va avoir des alternatives ou est-ce que tout va être dans la main d'un seul acteur? comme il est au croisement d'enjeux politiques hyper forts, c'est aussi ce que tu dis toi, il est financé, il est soutenu par ceux qui y ont intérêt. Donc on veut qu'Nvidia, quand on est américain, qu'Nvidia s'épanouisse, réussisse et qu'on n'ait pas un acteur chinois qui émerge. Quand on est américain, on ne veut pas qu'il y ait un Nvidia européen, de l'Union européenne qui
émerge. D'ailleurs, en fait, il faut rappeler que Nvidia n'a pas le droit de vendre tous ses produits aux Chinois.
On fait le max, on fait de la régulation défensive comme d'habitude. On devrait plutôt financer l'innovation et dire ok, on va dans les semi-conducteurs, on va créer nos propres GPU. Et on va pas dépendre, être les sous-traitants d'un autre.
Il l'avait dit, Bruno Le Maire l'avait dit lors d'un discours à la World AI à Cannes. Il a dit, voilà, il faut notre souveraineté dans le savoir-faire, ça on l'a. Souveraineté, bon, dans la data, il en faudra encore plus, mais il a parlé aussi d'une souveraineté processeur.
Mais Perle l'a dit, le ticket d'entrée pour rattraper le retard maintenant, il est juste monumental.
Ensuite, moi je suis un atlantiste convaincu, vaut mieux avoir les puces fabriquées aux États-Unis qu'à Taïwan. En tout cas pour nous en tant qu'Européens. On est beaucoup plus alliés des Américains que bon les Taïwanais, on est alliés également,
problème,
mais c'est quand même plus compliqué.
C'est pas Taïwan, c'est la Chine derrière.
Oui, mais bon, si c'est les Américains qui nous donnent les semi-conducteurs, bon bah on a plus de problèmes.
Tiens, mais justement,
on va rester fabriqués à Taïwan. Hein.
Oui,
c'est quoi ouais, c'est ça le problème. Lesquels sont fabriqués à Taïwan aujourd'hui. Donc, tu as vraiment pas d'alternative.
Ah oui, bien sûr.
On va justement rester aux États-Unis. Perle, tu reviens du Southwest Festival, donc à Austin. C'est un festival qui a une renommée mondiale, qui existe depuis pas mal d'années, qui était, alors longtemps, on l'a dit, tout à l'heure, musique, cinéma, médias. Et puis, peu à peu, c'est vrai, on a vu le digital arriver il y a 7-8 ans.
Qui a pu naître Twitter.
Donc,
à partir de ce moment-là, en fait, ça a vraiment drainé toute la communauté digital, tech, avec un prisme aussi très créa. Mais
c'est pas le CES, hein, c'est pas un CES bis.
Ça n'a rien à voir avec un CES bis. Le CES, c'est un salon où il y a des milliers de mètres carrés de stands et d'innovations très, très opérationnelles, très business, qui peuvent vraiment être déployées à l'échelle. Là, c'est plutôt un festival vraiment où on va se poser des questions de fond. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, il y a 3-4 grands sujets qui sont un peu ressortis cette année. Bon, bien sûr, l'IA.
L'IA, oui.
Sans surprise. Autant l'année dernière, c'était vraiment... C'était début 2023. Donc, en fait, on avait vraiment toute cette... La fin de l'année 2022 avec OpenAI.
Oui, puis on commençait à découvrir un petit peu.
Exactement,
ce que c'était
à découvrir. Donc, vraiment, on était portés par l'émulation que pouvait apporter l'IA générative. Cette année, ce qui était intéressant, c'est que finalement, on retrouve des débats qui sont assez représentatifs des débats politiques ou sociétaux qu'on peut avoir avec... En fait, des choses qui fascinent, une technologie qui fascine autant qu'elle fait peur. Mais ce qui est toujours intéressant dans ce festival, c'est que il prend le temps, à travers des centaines de conférences, de poser quand même des questions de société, de politique. Et au sujet de l'IA, il y a énormément de questions qui se sont posées, que ce soit à travers la place du travail, la place du collaborateur, comment est-ce qu'on
pouvait penser au travail du futur. Et tu sens dans les keynotes, les tables rondes auxquelles tu as pu assister, on reste quand même dans un prisme très américain, ou alors il y a une vision un peu mondiale
Alors, c'est un festival qui est quand même très, très ouvert et qui sort un peu des sentiers un peu battus. Donc, c'est américain dans le sens où effectivement, ça vient poser des sujets de société, de diversité, d'inclusion, de culture, et qu'est-ce que ça veut dire, et comment on l'apprend, etc. Mais je trouve quand même que c'est pas non plus trop enfermant. Il y a aussi plein de sujets autour des données personnelles, autour de la protection du droit d'auteur, que ça soit dans la musique, dans le cinéma.
Ouais, donc là, c'est assez universel.
Il y a quand même une influence pour le coup très européenne sur le fond des sujets qui sont posés. Donc ça, c'était quand même très intéressant. On a aussi beaucoup de sujets autour de tout ce qui est transition durable, santé mentale. Et justement, avec les sujets de d'IA, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la place du citoyen demain? La place de la créativité? Qu'est-ce que c'est qu'un créateur aujourd'hui, demain? Comment l'IA s'intègre dans le processus de création? Beaucoup de choses autour de l'évolution des modèles économiques pour accélérer cette transition durable. Beaucoup de sujets autour de la smart city, de la mobilité, parce qu'encore une fois, c'est comment le citoyen se déplace, comment est-ce qu'on va vivre demain. D'ailleurs, il y avait un track cette année qui était Futur 2050. Bon, on n'a pas appris ce qui allait se passer en 2050, mais Voilà, les questions sont posées. Il y avait aussi
c'est la BPI qui était très présente, Nicolas Dufour qui était là-bas, le patron de la BPI.
Effectivement, hein. C'est aussi.
Je ne sais pas s'il était avec Bessitude, enfin, vous aviez, vous étiez en partenariat là-bas.
Effectivement, c'est aussi moi dans ce contexte-là que j'y suis allée. Parce que tous les matins, je faisais des présentations de tendance auprès de la délégation de la BPI, mm-hmm. qui a amené à peu près une quarantaine d'entreprises françaises, mm-hmm. plutôt des startups justement dans le milieu de l'entertainment et de la création, à la fois pour leur donner de la visibilité sur le festival et sur le marché américain, et en même temps pour accompagner cette transformation et cette transition de ces entreprises qui aujourd'hui sont énormément challengées avec toutes ces technologies. Oui. Donc la BPI est là pour les accompagner. Et effectivement, il y avait Nicolas Dufour qui avait aussi toute la dynamique autour de la French Touch. Et donc comment on fait valoir finalement l'expertise française et la culture française dans cet environnement-là. Donc il y avait un panel avec la SACEM par exemple sur les droits musicaux, le droit d'auteur, comment on entraîne, comment on génère de la musique, qui est propriétaire, comment on trace. Donc voilà, tout ça était assez intéressant. Et puis juste pour rebondir aussi sur les sujets de l'année dernière il y avait beaucoup de choses autour du métaverse, des NFT, des cryptos, et en même temps on était un peu sur la pente quand même un peu descendante du sujet.
Oui, il y avait moins de fièvre autour de ça.
Exactement, cette année on l'a quand même revu un peu en sujet un peu de fond, parce que justement l'IA génératif quand même lève certaines barrières technologiques qui rendaient compliqué le développement par exemple du métaverse, parce que ça coûte très cher, parce qu'il faut produire l'environnement digital, des contenus digitaux, etc. Donc on voit quand même que ça vient peut-être de manière un peu plus mature, un peu moins dans tous les sens. Alors les marques se sont quand même pas mal désengagées de tout, tout ce qui est NFT, métaverse, mais ça, on sent que ça revient par une autre porte et peut-être un peu.
De toute façon, on le dit souvent, c'est un peu une, je connais bien ça, Hugo. Cet univers, c'est un peu une lame de fond. C'est quelque chose qui avance tranquillement et puis peu à peu, on va voir ses applications. C'est pas comme l'IA générative.
C'est un peu la tour de Gartner. En fait, il y a un pic avec une espèce d'euphorie où tout le monde s'emballe et là vraiment, on a l'impression que ça va changer le monde et puis après ça redescend. Une fois que c'est bien bas, ça remonte et là on voit quelque chose qui est plus industriel, avec des usages plus concrets.
C'est vrai que c'est pas l'effet IA génératif pour l'instant. C'est pas dans cette.
Ouais, mais après t'as quand même pas mal de trucs. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu vois l'année dernière tu dis il y avait beaucoup métaverse, NFT. Là ça a été full GenAI. Ça va aussi retomber parce que t'as les grands modèles, t'as les grands gagnants, et puis après t'as tous ceux qui font des applications par-dessus, qui viennent utiliser du code open source, développer des choses. Ça excite. T'as l'impression qu'il y a une innovation révolutionnaire tous les jours quand tu la presse, quand tu regardes Twitter, il y a énormément de choses qui vont être démonétisées hyper vite. Et d'ailleurs, quand OpenAI fait son Developer Day, l'équivalent de ce dont on vient de parler pour Nvidia, en fait, instantanément, ils tuent des milliers et des milliers de projets puisqu'ils intègrent dans leurs propres produits certaines applications, certains use cases qui étaient venus être déployés partout.
On aura l'occasion de revenir sur OpenAI dans un instant avec une vidéo de la patronne, la CTO d'OpenAI.
Ah ouais, ça c'est incroyable.
C'est quelque chose. On va l'écouter ensemble. Je peux dire, restez avec nous, revenez avec nous. Restez avec nous sur BFM Business dans Tech & Co, parce que là je sais pas s'il faut en sourire, s'il faut en pleurer, s'il faut s'effrayer de ce que va nous dire dans un instant la CTO d'OpenAI. Allez, tout de suite une petite page de pub et puis on va retrouver Marjorie Delson pour le journal de l'écho sur BFM Business.